RFI, grand reportage, Laurence Adou.
Le 8 mars 2014, à 0h41 heure locale, un Boeing 777 de la compagnie aérienne Malaysia Airlines décolle de l'aéroport de Kuala Lumpur en direction de Pékin. À bord du vol, 239 personnes, dont la majorité sont des Chinois. Une heure après, l'appareil change brusquement de cap, les contrôleurs aériens perdent tout contact. La Malaisie lance alors une opération de secours sans précédent. Mais jusqu'à ce jour, ni le moindre débris, ni les boîtes noires ont pu être retrouvées. La disparition du vol MH370 reste l'un des plus grands mystères de l'aviation civile. Et pour les proches des victimes, c'est un cauchemar sans fin. Un an après la disparition du vol MH370, l'impossible deuil des familles des victimes. C'est un grand reportage d'Heike Schmidt, Heike que l'on trouve pour en parler dans un quart d'heure.
Retrouvailles devant le centre d'accueil pour les familles des victimes. Des femmes se tiennent par les mains, se consolent entre elles. Depuis un an, elles partagent angoisse, souffrance et colère.
Je viens ici parce que je suis inquiète pour les enfants.
Que l'on vienne ou pas, nos enfants ne reviennent pas.
On ne peut rien faire. Qu'est-ce que je peux dire à ma belle-mère?
Quel est votre espoir aujourd'hui? Pourquoi vous venez dans ce centre d'accueil?
Je viens avec l'espoir que le gouvernement puisse sauver nos proches. On sait que les passagers sont encore vivants. Si les passagers étaient morts, ça voudrait alors dire que l'avion est tombé dans la mer. Mais si l'avion s'était écrasé, il y aurait des corps et des valises dans la mer. Mais il n'y a même pas un bout de papier. Donc c'est impossible.
Madame Guan, 72 ans, a perdu sa fille de 38 ans. Elle travaillait pour une entreprise américaine.
Le 8 mars dernier a bouleversé ma vie. Je ne peux plus m'occuper de ma maison, je ne fais que pleurer. J'ai écoulé les larmes de plusieurs vies, on n'a reçu aucune aide. J'ai dépensé plus de 200 yuan pour venir ici. On doit tout payer nous-mêmes, on ne nous dit que des mensonges. J'espère que le gouvernement pourra sauver nos proches.
L'espoir, malgré tout. La psychologue Wei Chang le comprend. Elle a été parmi les premiers à arriver à l'hôtel Lidou pour prendre en charge les proches des victimes après l'annonce de la disparition du vol MH370.
L'espoir leur permet de continuer à vivre. Si je ne me sentais plus triste et en colère, cela ne voudrait-il pas dire que j'ai oublié mes bien-aimés, que je les abandonne? Si les proches abandonnaient leur espoir, ils se sentiraient coupables. C'est l'un des désastres les plus difficiles à vivre, car il n'y a pas de cadavre. Tant que vous n'avez pas vu le corps sans vie de votre proche, vous ne pouvez pas clore le chapitre, tourner la page. Votre cœur continue d'attendre, on ne sait pas pour combien de temps encore. C'est ça le vrai défi.
12 mois après la disparition de l'avion avec ses 239 passagers et membres d'équipage à bord, Yelun cherche toujours son beau-frère. Il a démissionné de son travail pour se consacrer à plein temps à cette recherche. Nous l'accompagnons au centre d'accueil, mis en place par les autorités chinoises et la compagnie Malaysia Airlines. Yelun, en quête d'informations sur le sort des 153 Chinois à bord de l'avion, a du mal à comprendre pourquoi le centre d'accueil a été installé dans une zone industrielle à une vingtaine de kilomètres de Pékin.
Je crois que le gouvernement a choisi cet endroit pour ne pas attirer l'attention du public. Du coup, c'est facile pour les policiers de gérer la situation. Depuis plusieurs mois, on demande une navette ou alors que le centre soit rapproché de Pékin. Mais on nous le refuse.
Alors, on y va.
Les voitures de police arrivent, regardez. Il y a aussi des policiers en civil qui s'infiltrent dans le groupe des familles. Mais nous, on peut les repérer. On se connaît entre nous. Je suis sûr que mon compte de messagerie WeChat est surveillé. On ne peut parler tranquillement qu'en tête à tête. Parfois, même à la maison, on est dérangé. À l'époque, certains proches se sont rassemblés pour prier au temple des lamas. La police les a repérés. Ceux qui ont participé à la prière ont été embêtés. À ma connaissance, les policiers ont frappé aussi à la porte de Madame Dai.
« Ça fait 2 semaines que je ne suis pas venue ici. Je n'ai pas osé. J'ai peur des policiers chinois. Ils m'ont menacée chez moi. J'ai 60 ans. J'ai une réputation dans mon quartier. Je n'ai jamais fait de mal à personne.
Dai Shuqin a perdu 5 membres de sa famille. Parmi les victimes se trouve sa sœur avec son époux, sa fille, son beau-fils et leur enfant.
Je ne peux pas supporter le harcèlement policier. Je veux venir ici tous les jours, mais j'ai peur des policiers. Ici, ils ont exercé des pressions. Chez moi, ils m'ont menacée. Je n'ai pas peur du gouvernement malaisien, j'ai peur du gouvernement chinois. Ça fait 3 semaines que je l'ai pris de m'accorder un crédit. Ils me l'ont refusé. J'ai des maladies, mais je n'ai pas l'argent pour me faire soigner. Regardez, c'est tout ce que j'ai mangé depuis ce matin. Je ne peux même pas me payer une bouteille d'eau.
Madame Dai brandit un petit sac avec quelques fruits secs. Un homme essaye de la calmer. La police guette. Lorsque nous voulons l'accompagner au centre d'accueil, plusieurs hommes en uniforme nous barrent la route.
On ne peut pas y aller ? Pourquoi ? On ne peut pas suivre la dame ? On voudrait juste voir le centre d'accueil.
La colère des proches dérange. Les autorités chinoises craignent tout débordement qui pourrait créer un mouvement de révolte. Pour échapper à la surveillance, nous rencontrons Jiang Hui dans un café près du grand temple de Lama, au nord de Pékin.
Certains proches ont été détenus pour avoir brandi une banderole ou pour être restés trop longtemps au centre d'accueil. Une 20aine ou une 30aine de personnes ont été placées en garde à vue. Une fois, on s'est même mis très en colère, car 2 enfants de 4 et 6 ans ont été arrêtés. Et quand on a voulu rencontrer des avocats, les réservations des salles de conférence ont souvent été annulées au dernier moment.
Dans la nuit du 8 mars, la mère de Jiang Hui avait embarqué à bord de l'avion MH370 en direction de Pékin. Depuis, plus aucune nouvelle.
J'ai 41 ans. Avant, je ne comprenais pas le sens du mot « torture ». Avant, je n'avais pas autant de cheveux blancs. Ils sont apparus cette année. Je suis en dépression, selon les médecins. J'ai perdu le sommeil. Cette affaire a aussi affecté mon travail. J'étais le premier de mon équipe en 2013, mais en 2014, mes résultats ont été mauvais.
Quelle est aujourd'hui votre revendication face à la compagnie ?
Pour les parents paysans qui ont perdu leur enfant unique et donc leur seule source de revenus, il faut leur débloquer des aides. Il faut aussi inviter les proches en Australie pour assister aux enquêtes. Vous ne le comprenez pas, mais c'est très important pour nous de suivre l'enquête. C'est un confort psychologique. On saurait au moins qu'ils cherchent, même s'ils n'ont pas encore obtenu de résultats. Pour nous, c'est très important.
Nous, les êtres humains, nous avons besoin de certitude. Cela nous donne un sentiment de sécurité, de stabilité. Si nous sommes en manque de certitude, nous ressentons de l'angoisse et ce n'est pas un bon sentiment.
Steve Wang souffre de cette même incertitude. Le 8 mars 2014, le jeune informaticien attendait sa mère de retour de Kuala Lumpur. Steve ne veut toujours pas croire qu'elle ne reviendra pas.
Depuis le tout début, je m'attendais au pire, mais je n'abandonne pas l'espoir sans preuve concrète. Même si l'espoir reste tout petit, 1% ou 0,1%, je m'y accroche. Il n'y a pas d'élément qui indique où se trouve l'avion. C'est cette incertitude qui est la plus dure à supporter.
La recherche a déjà coûté plusieurs centaines de millions de dollars. Il s'agit de la plus importante opération de secours de l'histoire de l'aviation civile. 65 avions et 95 navires de 25 pays ont passé des dizaines de milliers de kilomètres carrés au peigne fin sans le moindre résultat tangible.
Je ne sais pas ce qu'ils font depuis tout ce temps. Quand je pose une question, ils répondent « soit je ne peux pas vous le dire, soit on est en train d'enquêter ». Les informations qu'ils nous donnent n'ont aucune valeur.
Notre appel au centre d'accueil basé à Pékin n'aboutit pas. Nous essayons d'obtenir des renseignements auprès de la compagnie Malaysia Airlines à Kuala Lumpur. My name is Heike. I'm a journalist for Radio France International. Nous voudrions entrer en contact avec le centre d'aide pour les familles. Est-ce que vous pourriez nous donner un numéro valable, s'il vous plaît?
Nous n'avons pas le droit de révéler au public des informations concernant les familles.
Vous ne pouvez pas me mettre en contact avec le centre?
Non, nous ne sommes pas autorisés à vous donner des informations en relation avec les familles des victimes ni sur les procédures de compensation.
Okay, I understand. Le 29 janvier, Azharuddin Abdulrahman, le directeur général de l'aviation civile de la Malaisie, fait cette annonce officielle.
Nous avons conclu que l'avion a épuisé son carburant dans une zone au sud de l'océan Indien et que l'avion se trouve au fond de la mer. C'est un endroit isolé, loin de toute possibilité d'atterrissage. C'est pourquoi nous annonçons au nom du gouvernement malaisien, le cœur lourd et avec un profond chagrin, que le vol MH370 de Malaysia Airlines a été victime d'un accident. Il est présumé que les 239 passagers et membres d'équipage ont perdu la vie.
Cette déclaration ouvre la voie au versement des compensations, mais les proches, comme Tiang Hui et Yelun, ne veulent pas en entendre parler. Ils craignent que leur signature puisse servir de prétexte pour arrêter les recherches sans que le mystère soit élucidé.
Je n'ai pas reçu la moindre pièce. La compagnie aérienne nous a proposé 50 000 $, mais la majorité des proches a refusé cet argent. C'est de l'argent taché de sang. On a réclamé un soutien psychologique, des frais de transport et de santé garantis par des traités internationaux, mais la compagnie ne rembourse plus rien, et cela en violation des traités internationaux.
Moi, je n'ai rien reçu. Pour obtenir une compensation, il faut que nous signions un certificat de décès. Mais ça, on nous le refuse.
Les familles des victimes s'accrochent à ce dernier moyen de pression dont ils disposent. Pourtant, l'avocat Hong Liangzhang, qui défend plusieurs proches, les met en garde. Il ne leur reste qu'un an pour demander des indemnisations.
Selon le traité de Montréal, pour obtenir une compensation, il faut en faire la demande dans les 2 ans qui suivent l'accident. Après, les familles perdront leurs droits. Je leur conseille donc d'accepter cet argent. Cela n'est pas en contradiction avec les autres enjeux. Il faut la compensation, l'enquête et enfin la vérité.
Le soir même de l'annonce officialisant la mort de tous les passagers du vol MH370, des photos des proches effondrés en larmes circulaient sur les réseaux sociaux. Les familles continuent de se dire choquées et déterminées à ne pas accepter les indemnisations proposées par la compagnie. Le lendemain matin, nous retournons au centre d'aide. Cette fois-ci, une dizaine de voitures de police sont garées à l'entrée. Les proches arrivent les uns après les autres. Parmi eux, Madame et Monsieur Li, dont la fille était à bord de l'avion disparu.
Ils ont annoncé que l'avion a eu un accident sans avoir la moindre preuve. Cette attitude est irresponsable. On croit qu'il y a un grand complot derrière tout ça, une main qui manipule tout ça. Depuis le début, la Malaisie s'est beaucoup contredite. Elle a souvent démenti le lendemain ce qu'elle avait publié la veille. Mais personne ne nous aide à trouver la vérité. Il faut nous rendre nos proches rapidement.
Depuis 2 jours, nous savions que l'annonce était imminente. On s'est alors tourné vers le gouvernement chinois en espérant qu'il puisse empêcher la Malaisie de faire ça, puisqu'aucune preuve n'a été apportée.
Monsieur Li n'a pas encore terminé sa phrase lorsque la police intervient.
Excusez-moi de vous déranger. Bonjour.
Quel est le souci?
Vous faites quoi? Une interview? Journaliste, je peux voir votre carte de presse?
Je dois montrer ma carte de presse. C'est un policier qui se trouve en face de moi et qui veut nous empêcher d'interviewer les proches. Alors les policiers prennent note. Les proches sont à côté de nous. Ils attendent. On n'a pas le droit de faire des interviews ici.
Premièrement, uniquement le personnel de la compagnie aérienne et les proches des passagers peuvent entrer ici. Deuxièmement, c'est votre droit et votre liberté d'interviewer en tant que journaliste. Mais nous sommes dans un lieu public et il ne faut pas perturber la circulation. Circulez, s'il vous plaît.
Mais où vous voulez qu'on se mette? Il n'y a que la route et la zone publique. Vous voulez qu'on monte sur le toit?
Rien à faire. Les policiers nous prient de quitter les lieux. Les portes du centre d'aide aux familles nous resteront fermées. Plus la date du premier anniversaire de la disparition du Boeing 777 approche, plus les autorités sont sur le qui-vive et tentent d'empêcher tout rassemblement des proches en colère. Aucune cérémonie n'est prévue pour rendre hommage aux 239 passagers dont on est sans nouvelles depuis le 8 mars de l'année dernière. Un an après la mystérieuse disparition du vol MH370, l'impossible deuil des familles des victimes. Un grand reportage de Heike Schmidt et Lou Liu, réalisation Marc Minatel.
Heike Schmidt, bonjour.
Bonjour Laurent.
Vous êtes l'auteur de ce grand reportage. Alors comment expliquez-vous la nervosité des policiers qui surveillent de près les familles des victimes à l'approche du premier anniversaire de la disparition du vol MH370?
Les autorités préfèrent isoler les familles des médias pour qu'elles ne puissent pas exprimer leur colère. C'est une colère qui ne s'adresse pas seulement au gouvernement malaisien ou à la compagnie aérienne Malaysia Airlines, mais aussi à leur propre gouvernement. D'ailleurs, c'était exactement comme ça dès le début. Tout de suite, après la disparition de l'avion, les proches ont été mis à l'écart des médias dans un hôtel près de l'aéroport. Et pour nous, les journalistes, il était quasiment impossible de les approcher. C'était certes par souci de les protéger, mais aussi pour mieux les surveiller. Il faut dire que par moments, la situation était véritablement explosive, avec près de 400 proches regroupés pendant plusieurs semaines dans cet hôtel Lido, au bout de nerfs et en attente de nouvelles de leurs fils, leurs filles ou leurs parents, et confrontés tous les jours à des autorités malaisiennes et chinoises incapables de leur donner la moindre information, Laurent.
Alors aujourd'hui, cet avion qui s'est mystérieusement volatilisé quelque part entre Kuala Lumpur et Pékin met le gouvernement chinois davantage dans l'embarras.
Oui, bien sûr, vous imaginez bien, un an est passé sans que la moindre trace de l'avion MH370 n'ait pu être retrouvée. Pourtant, dès le début, la Chine n'a pas lésiné sur ses moyens pour retrouver cet avion avec ses 239 personnes à bord, dont deux tiers étaient des passagers chinois. Pékin a mobilisé 21 satellites, 19 navires, 13 avions et 2500 personnes pour participer aux recherches. Recherches restées vaines. Par ailleurs, les fausses pistes se sont multipliées, comme lorsque Pékin a annoncé d'avoir détecté trois larges objets flottant en mer de Chine orientale, ou lorsque des navires chinois et australiens ont détecté entre le 5 et le 8 avril des pings, ces signaux radars, mais qui ne venaient finalement pas des boîtes noires. Depuis, plus rien. Et actuellement, trois navires continuent encore les recherches. Ce sont des robots écument tous les jours les fonds de l'océan Indien, dans l'espoir de trouver enfin l'épave du Boeing 777 disparu qui pourrait reposer à 4000 mètres de profondeur.
Quelle est aujourd'hui la position de Pékin vis-à-vis de la Malaisie et de la compagnie aérienne Malaysia Airlines?
L'annonce du 29 janvier des autorités malaisiennes que l'avion a eu un accident et que tous les passagers à bord sont présumés morts s'est probablement faite avec l'accord de Pékin, même si tout de suite après cette déclaration, le premier ministre Lee Keqiang s'est dépêché de rappeler Kuala Lumpur à sa promesse de poursuivre les investigations. Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères a par ailleurs rappelé que Pékin fera tout pour que les familles puissent défendre leurs droits face à la compagnie Malaysia Airlines. Mais les proches que nous avons pu rencontrer sont, eux, loin d'être satisfaits. Vous les avez entendus dans le reportage. Ils se sentent bien seuls face aux autorités chinoises et malaisiennes.
Ce sera le mot de la fin. Un grand reportage, bien sûr, à réécouter sur RFI.fr. Heike Schmidt, merci beaucoup. Bonne journée.
Tous les jours, Accent d'Europe vous propose...